Je vois mon bébé dans le tien, celui que tu tiens son vie dans tes bras. Gémissant d'incrédulité, je me vois en toi, comme tu embrasses ces précieux joues une dernière fois. Et je pleure avec toi. Je me souviendrai de tout ce que je vois pour le reste de ma vie. J'ai lu il y a peu ces phrases qui ont brisé mon cœur en miettes. Même sans être maman, comment ne pas ressentir la tristesse de la mère tenant son enfant mort dans ses bras? J'ai aussi lu, et vous avez sûrement lu, dans les stories de Saleh al-Jafaraoui, « Dieu sait que j'ai tout fait pour surmonter ma douleur et ma fatigue parce que je sais que beaucoup de personnes se tournent vers moi pour trouver de la force. Et je sais que je ne dois pas faiblir parce que la Palestine a besoin de moi. Mais oh Allah, j'ai eu tant d'horreurs. Je pleure jusqu'à m'endormir, je fais des cauchemars toutes les nuits. Ça fait 58 jours que je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille, depuis la dernière fois que j'ai pu les contacter. Et pourtant, je continue de poster et de partager. » Mais il semblerait que le monde ne va pas répondre à notre appel. Si Dieu veut, vous vous réveillerez une fois qu'on sera exterminé et effacé de la surface de la terre. Assalamu alaikum. Allahumma shahli sadri wa yassir li amri wa hlouqtasam min lisani yafqahu qawli. C'est ta sœur Khla, j'espère que tu vas bien et que ton âme se porte bien. Bienvenue dans l'épisode numéro 5, le secours est proche du podcast de Hamam. En espérant qu'il puisse être bénéfique, Inch'Allah. Vous l'avez compris, dans cet épisode, on va parler de notre bien-aimée Palestine, d'un peuple qui nous a enseigné et nous enseigne toujours ce qu'est le véritable courage, la vraie foi et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vous cache pas, ça fait quelques semaines maintenant que l'idée de faire cet épisode ne me lâche pas. Mais j'ai peur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je ne saurais probablement jamais ce qu'est de vivre et de ressentir ce qu'ils vivent et ressentent depuis plus d'un mois. Que dis-je ? Depuis plus de 70 ans, puisque rappelons-le, ça n'a pas commencé le 7 octobre, mais bien avant. Et non, ce n'est pas une guerre, c'est un génocide, et nous en sommes tous témoins. Je vais laisser de côté mon sentiment d'impuissance et de culpabilité, et je vous adresse ces quelques réflexions qui m'ont fait du bien ces derniers temps, en espérant qu'ils puissent vous être profitables, Inch'Allah. On va commencer par les premiers versets de Sourate al-Baqarah. A'oudou billahi minash shaitan rajim, bismillahi rrahman rrahim. Alif lam mim, dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala commence par Alif lam mim, puis il parle du livre. Voici le livre à propos duquel il n'y a nul doute. Hudan lil-muttaqin, guide pour les gens pieux. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit qui sont les gens pieux. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Qui croient à l'inconnaissable, à l'ghaib, accomplissent la salate et dépensent des biens que nous leur avons dispensés. La première description de ces gens-là qui obtiendront le guide par ce livre sont ceux qui croient à l'invisible, l'inconnaissable, à l'ghaib. La professeure Yasmine Mujahed, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense amplement, donne une exégèse de ces versets que je trouve très pertinente. Elle dit qu'on ne peut pas réussir dans cette vie courte et éphémère, cette vie pleine d'épreuves et de déceptions, sans être parmi ceux qui croient en l'invisible, al-ghaib. On ne peut pas être des gens qui sont déçus par ce qu'ils voient sans aussi croire en ce qu'ils ne voient pas. Comme on le sait très bien, on vit dans la dunya, la vie d'ici-bas. Il y aura des aspects de cette vie que nous voyons et que nous ressentons dans ce monde physique. Mais il y aura aussi des aspects qui sont invisibles. Et ces deux arrivent en même temps. On ne pourra survivre à cette vie d'ici-bas, la dunya, sans croire en ce que nous ne voyons pas. C'est ce qu'Allah nous dit dans ses premiers versets de Sourate al-Baqarah. Dans ces deux mondes simultanés, celui du visible et celui de l'invisible, on aura des responsabilités. Yasmin Mujahed explique que nous avons une ibadah, une adoration à réaliser avec nos corps, par nos actes, et aussi une ibadah, une adoration à réaliser avec le cœur, avec nos obligations spirituelles. Nous sommes actuellement témoins en temps réel du génocide qui a lieu à Gaza. Nous sommes témoins de choses qu'on n'avait vues que dans les livres d'histoire. On sait tout cela. On voit chaque jour le nombre d'enfants morts et massacrés en Palestine. On voit que l'aide est bloquée. On est témoins de tout cela. On a pu voir des gens se faire opérer sans anesthésie. On a vu des journalistes découvrir leurs familles mortes en temps réel. On a été témoin de l'hôpital bombardé. Tout cela a lieu dans ce monde visible. Nous en sommes témoins. Et on a tous une obligation face à cela. Quelle est-elle ? On se demande. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous répond à cela. D'après Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. Qu'il agisse pour essayer de changer ce mal-là. Essayez d'arrêter cette oppression. » Il dit ensuite « S'il ne peut pas alors par sa langue. » Parler contre le mal qui a lieu, s'exprimer en faveur des opprimés, dire la vérité, utiliser sa voix pour défendre la cause et faire entendre la voix des opprimés. Et s'il ne peut pas, alors avec son cœur. Et ceci est le niveau le plus faible de la foi. C'est-à-dire, tout d'abord, on doit essayer de le changer par la main. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas être passifs face à l'oppression. On ne peut pas être passif face à l'abus et à l'injustice. Que cela arrive dans notre propre maison ou très loin de nous. On ne peut pas être passif. On ne peut pas garder le silence. On a l'obligation de faire quelque chose quand il y a un mal qui a lieu. Pendant que tout ceci arrive dans un monde visible, il y a de manière simultanée quelque chose qui arrive dans le monde invisible. Et si nous ignorons la croyance de nos cœurs, si nous ignorons la réalité invisible et nous nous focalisons uniquement sur la réalité visible, nous allons tomber dans le désespoir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna ma'al usri yusra » Avec la difficulté, il y a de la facilité. Nous devons croire en cela. Nous devons aussi croire Allah lorsqu'il nous dit que la victoire sera toujours pour le croyant, que le croyant sera toujours gagnant, que la foi sera toujours supérieure au mal, que le bien gagne toujours. On doit croire cela. On doit avoir une profonde conviction de tout cela. Yasmine Mujahed précise que notre travail à faire dans ce monde invisible est tout d'abord de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qui est en train d'arriver. Allah subhanahu wa ta'ala est avec Gaza, il est avec le peuple palestinien. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les protéger, de les envelopper de sa grande miséricorde, puisqu'ils vivent actuellement et quelque chose qu'aucun être humain ne pourrait supporter sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Ce que nous témoignons avec nos yeux, c'est pas seulement le génocide qui a lieu sous nos yeux, mais aussi le nasr d'Allah subhanahu wa ta'ala, le secours d'Allah. Allah nous dit dans surat al-Baqarah, dans le verset 214, Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathal alladhina khalaw min qablikum? Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles qui subirent ceux qui vécurent avant vous? مستهم البأساء والضراء وزلزلوا misère et maladie les avaient touchés et ils furent secoués. Et ici zulzilu, secoué, vient de la même racine que tremblement de terre. Subhanallah. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés, quand viendra le secours d'Allah. Inna nasrallahi qarib. Certes, le secours d'Allah est sûrement proche. Lorsqu'on apprend la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire de sa vie, on a tendance à s'armer de courage et à dire j'aurais aimé être aux batailles de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille de Khandaq. J'aurais sûrement été aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'aurais pas quitté le champ de bataille. Je n'aurais jamais été dissuadé par les hypocrites. J'aurais été capable de surmonter toutes les pressions. Je me serais tenu ferme près du prophète. La réalité est qu'il est difficile de savoir cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous place dans nos temps et dans des réalités pour des raisons qui nous sont inconnues. Selon grand nombre de savants, ce verset arrive au moment de la bataille de Khandaq. Pour te faire un rapide contexte, il s'agit de 25 à 30 jours assiégés par l'armée la plus grande que les musulmans aient connue de leur existence. Assiégés de tous les côtés par une armée dont la seule volonté est de mutiler tout le monde. Entourés de partout et la seule chose qu'ils avaient est une stratégie qu'ils n'avaient pas expérimentée avant. Il suffisait d'une erreur pour que ça soit la fin de chaque membre de Médine. T'es trahi, t'es affamé. L'estomac du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est gonflé de faim. Tellement qu'il a deux pierres attachées à son estomac. Comment tu dors la nuit alors qu'il fait froid, que les gens sont affamés et que tout le monde a peur? Et les hypocrites parmi eux dirent « Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura » Allah et son messager ne nous ont promis que des illusions. Des gens qui se mettent à tout questionner, à dire qu'ils n'auraient pas dû suivre le chemin du messager, que la seule chose qui leur fut promise était Al-Jannah, le paradis. Quelle désillusion, dirent-ils. Comment arriver à dormir avec tous ces facteurs? Mais Allah subhanahu wa ta'ala les sauva. Allah subhanahu wa ta'ala leur donna la victoire. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ La victoire appartient aux pieux. Certaines personnes mouriront sur le chemin. Certains passeront par toutes sortes d'oppressions. Mais encore une fois, comment commence le verset ? أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles qui subiront ceux qui y vécurent avant vous ? Cette vie d'ici-bas sera remplie de surprises et d'épreuves. Le paradis est entouré d'épines et de difficultés. Mais sache que l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala est avec ta patience. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate numéro 29, le verset numéro 2, « Les hommes pensent-ils que parce qu'ils disent « nous croyons », ils seront laissés sans être mis à l'épreuve ?» Nous croyons véritablement que nous accéderons au paradis sans être éprouvés ? Subhanallah. Et c'est ce qui nous mène à nous questionner sur le nasr d'Allah, sur le secours d'Allah. J'ai entendu une histoire qui m'a mis les frissons. C'est l'histoire de la coiffeuse des filles du pharaon. Lorsqu'ils découvrirent qu'elle adorait Allah, et non pas Pharaon, et non pas le pharaon, Pharaon prit un réservoir qu'il remplit d'huile bouillante et prit ses 5 enfants devant elle et décida de les plonger un par un. Lorsqu'il plongea un de ses enfants, le regard de la coiffeuse était fixe sur lui pendant qu'il le poussait dans ce bas d'enfer. Il n'avait eu aucune pitié. Son petit corps disparut lui aussi. Elle ne pouvait le quitter du regard. Les larmes coulaient sur ses joues. Il venait de la quitter pour l'autre monde. Pendant un moment, elle s'est laissée emporter par ses souvenirs. Elle n'avait plus dans son esprit que son image. Les moments passés ensemble, ses jouets, ses premiers mots, ses habits. Puis les soldats vinrent vers elle. Son esprit revint soudainement à la cruelle réalité. Ils s'en prirent au 5e et dernier enfant, qui n'était encore qu'un bébé. Ils l'arrachèrent du sein qu'il tétait. Il cria et se mit à pleurer. La mère n'a pas pu s'empêcher de pleurer et de le retenir encore un peu. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fit parler. Il dit « Oh mère, endure cette épreuve, c'est toi qui as raison. » Ils le jetèrent avec ses frères de l'huile bouillante. 5 enfants et leur maman furent ainsi tués. Et vous me direz, mais Ikhlas, où est ici le secours? Et subhanallah, il y a une autre histoire assez semblable de notre actualité. Il y a un enfant qui a été poignardé 26 fois aux États-Unis parce qu'il était palestinien. Imaginez-vous être à la place de ses parents. Et subhanallah, ils disent qu'à un moment donné, l'enfant, il dit à ses parents, je vais bien. Et encore une fois, où est le secours dans cette situation-là? Le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala est qu'il permet qu'elles gardent les pieds fermes, qu'elles aient l'istiqama. L'istiqama, c'est cette capacité chez le croyant de toujours et en toutes circonstances de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous promet la victoire et qu'il sera toujours avec les croyants, et que la foi gagne toujours. Ce qu'on témoigne aujourd'hui est qu'Allah est avec eux. Allah est avec la Palestine, avec les souffrants, avec les opprimés. Allah subhanahu wa ta'ala prend soin de ses enfants, il prend soin de ses mères, de ses familles. Pendant qu'on agit avec nos cœurs, nos mots et nos actions pour mettre fin à tout ça, on doit aussi en même temps faire que nos cœurs soient dirigés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Que nos cœurs voient et ressentent Allah, et la ilaha illallah. Allah prend soin d'eux. Allah a pris soin des enfants. La justice d'Allah fit que cet enfant parle à la coiffeuse du Pharaon. La justice d'Allah a permis que Asya, pendant qu'elle était torturée, soit reconfortée par sa maison au paradis. Et elle sourit, subhanallah. Vous imaginez? Elle est torturée. Et pourtant, ils sourient. Dans le monde physique, ils sont torturés, ils vivent un génocide. Mais dans le vrai monde, dans le monde de l'invisible, comme on le disait tout à l'heure, الَّذِينَ يُؤْمِنُوا بِالْغَيْبِ, ceux qui croient à l'inconnaissable, on doit être pleinement convaincus dans nos cœurs que dans l'inconnaissable, Allah prend leur maison ici-bas pour leur donner des maisons au paradis. C'est un rappel pour nous de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et nous concentrer sur ce qui compte véritablement. Je finirai avec un hadith qui me touche profondément à chaque fois que je l'entends, rapporté par Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, et authentifié par Cheikh Albani. D'après Enes, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On fera venir celui des gens du paradis qui a eu le plus d'épreuves de la vie d'ici-bas, et il sera dit « Plongez-le une fois dans le paradis. » Alors il y sera plongé. Puis Allah va dire « Oh fils de Adam, as-tu vu dans le passé une quelconque difficulté ou une chose que tu détestes ?» Alors il va dire « Non, par ta puissance, je n'ai jamais vu une chose que j'ai détestée. » Il ne saura même pas ce qu'est la misère, ce qu'est la tristesse. Subhanallah, vous vous rendez compte à quel point elle est grande, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de dire qu'arrivé à ce stade-là du paradis, il sera plongé une seule fois, il sera ressorti à nouveau, et il dira, je n'ai jamais connu de tristesse, je n'ai jamais connu de souffrance, subhanallah, je n'ai jamais connu d'épreuve. Et subhanallah, l'imam Omar Suleyman disait qu'un très bon exemple de ceci est l'imam Ahmed, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'imam Ahmed fit face à de la torture à plusieurs reprises. Il fit face à tout type de difficultés. Et lorsque son fils lui demanda « Maître Raha, quand allons-nous nous reposer ?» L'imam Ahmed n'avait nul doute sur le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur sa capacité à changer les choses. Mais au lieu de répondre à son fils « Dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, nos épreuves prendront fin, on pourra se reposer », il dit à son fils « On se reposera avec nos premiers pas au paradis, subhanallah, pour instiller ceci dans nos cœurs. Ça ne veut pas dire de perdre espoir en l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ici-bas, mais plutôt de garder espoir en la promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. S'armer de patience, même lorsque les choses qui nous arrivent sont inimaginables, insupportables. D'après Abu Huraira, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Ala inna sillatillahi ghaliya » Ala in sillatillahi al-jannah. Certes, la marchandise d'Allah est précieuse. Certes, la marchandise d'Allah est le paradis. Et si nous ne nous focalisons pas sur cela, on vivra continuellement des difficultés sans aucune finalité. Le vrai secours, le véritable secours, n'est pas supposé être ici-bas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'avoir une profonde connexion avec lui. Qu'Allah nous permette d'être parmi ceux qui agissent face à l'injustice. Ceux qui luttent contre l'oppression, tout en sachant que de toute manière, le secours viendra d'Allah. Qu'Allah nous permette d'avoir une pleine confiance en lui, en son pouvoir, en son paradis, en sa miséricorde, en sa générosité. Qu'Allah nous accorde, et à tous nos frères et sœurs de le monde, le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah apaise tous ceux qui souffrent et leur accorde et nous accorde Jannatul Firdaus, le plus haut degré du paradis. Qu'Allah nous protège de tout mal, qu'il nous guide, nous préserve et nous aime fort. Ne perdons pas espoir. Et mettons la promesse du paradis au centre de nos inquiétudes. Le secours d'Allah est certes proche. N'oublions pas nos frères et sœurs opprimés de nos prières, de nos invocations. Et si jamais nous avons le moyen d'arrêter cela ou d'apporter notre pierre à l'édifice, n'hésitons surtout pas. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. C'était Sœur Khilas pour le podcast de Amam. À très vite, Inch'Allah. في أمان الله والسلام.